Dialogue en Congolais revient ce soir avec les analystes sur l'accord qui a été signé mardi dernier entre la majorité présidentielle et l'opposition ayant participé au dialogue national. Les résolutions de cet accord permettent à l'actuel chef de l'État de rester en fonction au-delà de 2016 et ouvrent la voie à un gouvernement d'union nationale qui dirigera l'opposition. Comment analyser cet accord politique? Nous en parlons avec Professeur Alphonse Maïndo, il est docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Bonsoir Professeur Alphonse Maïndo.
Bonsoir.
Israël Moutala, il est analyste politique et économique. Bonsoir Monsieur Israël Moutala.
Bonsoir.
Et Joseph Kongolo, analyste politique. Bonsoir Monsieur Joseph Kongolo.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les travaux du dialogue national se sont clôturés mardi dernier à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. La signature de l'accord politique entre les parties prenantes a mis fin aux travaux du dialogue lancés depuis le 1er septembre dernier. Les détails avec Berry Franklin Luchaka.
Les participants au dialogue ont convenu de commencer par les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales en une seule séquence. Ces élections commenceront précisément 6 mois après la convocation du corps électoral. Et ce corps électoral sera convoqué, à en croire l'article 5 de ce document, le 30 octobre 2017, à partir de la promulgation de la loi sur la répartition des sièges. L'article 17 de l'accord révèle que le chef de l'État actuel reste en fonction conformément à la Constitution jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais le député national Muindo Nzangi, membre du MSR et du Rassemblement, n'est pas d'accord avec ce point.
Le problème principal que nous avons, qui est à l'origine de la crise, c'est l'alternance. Le fait pour le président de la République de ne pas accepter l'alternance et de chercher des moyens détournés pour pouvoir contourner la Constitution, il n'y a même pas un seul mot alternance dans l'accord. Même pas un seul mot.
Le gouvernement actuel, quant à lui, sera remplacé dans les 21 jours qui suivent la signature de cet accord par un nouveau gouvernement d'union nationale qui sera dirigé par une personnalité issue de l'opposition, signataire de ce document. Dans la pratique, il faut attendre le nouveau gouvernement autour du 9 novembre, d'après les calculs faits. Quel sera alors le statut de l'opposition ayant participé au dialogue et qui sera au gouvernement? Maître Jean Bouillou, cadre du PPRD, parti de la majorité, explique.
Il y a certes une nouvelle majorité parce que l'opposition, comme elle l'a proposé elle-même, quoique cela n'est pas dit dans l'accord, rejoint ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Dans cette majorité parlementaire, vous trouverez donc la majorité présidentielle qui existe et vous trouvez également, disons, ceux qui s'ajoutent à la majorité parlementaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'opposition préfère le terme majorité parlementaire à majorité présidentielle, qui a une connotation plus politique que textuelle.
Pour assurer un suivi dans la mise en application de cet accord, le comité de suivi du dialogue, CSD en sigle, a été créé. L'une de ses missions principales sera d'assurer le suivi du chronogramme de mise en œuvre de l'accord.
Merci Berry Franklin Luchaka. Professeur Alphonse Maïndo, je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Un accord politique issu du dialogue national, lorsque vous parcourez cet accord, quelle est votre première impression, professeur?
Oui, merci beaucoup. Je pense qu'en quand j'ai parcouru cet accord, j'ai la première impression qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire voilà, il y a beaucoup d'éléments ici par rapport à cet accord qui relève plus de la compétence de l'institution en place. Je veux dire du gouvernement, du parlement, de la CNI. Mais par exemple, tout ce qui concerne les élections là, ça relève évidemment de la compétence de ces gens-là. Donc on se demande pourquoi on a besoin de passer autant de temps, de signer des accords pour ça. Parce que ça se traduit aussi par les recommandations qui sont faites. Hein. Les recommandations sont faites à ces institutions-là, d'ailleurs, pour qu'elles fassent ci, elles fassent ça. Voyez-vous, donc, je me demande pourquoi on a fait ça. Mais ceci dit, la deuxième impression en parcourant cet accord qui me vient à l'esprit, c'est de dire, ben, voilà, on peut saluer cet accord, c'est un bon pas en avant, si vous voulez, pour la solution de la crise congolaise, mais insignifiant, je veux dire insuffisant, on ne peut pas résoudre la crise, puisque là, on se retrouve face à, si vous voulez, à un accord qui ne répond pas aux préoccupations majeures. C'est comme si je prenais l'image d'un médecin, voyez-vous, on amène quelqu'un un accidenté grave, on l'amène devant un médecin, et au lieu de faire une médecine d'urgence pour arrêter l'hémorragie, pour panser les plaies, tout ça, le médecin, il veut faire le protocole ordinaire, c'est-à-dire passer par la réception, remplir un formulaire, etc., etc., etc. Voilà, c'est ce qui ressort de cet accord. Parce que je ne peux pas comprendre, face à une crise aussi grave et imminente, comment on peut proposer de faire une révision intégrale du fichier électoral, alors même qu'en 2006, en 2011, on était dans une situation pratiquement normale, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais demandé l'élection de, disons, l'enregistrement, l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Et là, on le demande, alors qu'on est en situation de crise. C'est ahurissant, on ne peut pas imaginer ça, voyez-vous. Donc il y a un certain nombre de... Mais ce que je pourrais dire aussi, ce qui me vient aussi à l'esprit en parcourant cet accord, c'est évidemment de voir que les partis qui se sont réunis dans cette qui ont fait cet accord, ils ont réussi une espèce de coup de maître pour obtenir ce qu'ils voulaient. En fait, on va arriver à ça. Alors, je vois par exemple les petits mots, si vous voulez, les détails, c'est tout souvent dans les, disons, les petits détails dans les détails. Je vois qu'il y a un article où qui dit que la primature est réservée donc à l'opposition, mais on précise bien l'opposition politique signataire du présent accord. Donc on voit bien que c'est on exclut d'office, si vous voulez, une frange de l'opposition qui n'a pas signé cet accord ou même qui pourrait adhérer après à cet accord. Donc on voit là, si vous voulez, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui posent problème.
Oui.
Ceci dit, ça devrait être considéré comme un bon pas en avant, un document dont on pourrait se servir pour ouvrir, si vous voulez, l'espace politique, pour ouvrir d'autres négociations, pour aller vers une solution plus globale de la crise qui secoue notre pays en son nom.
Oui, professeur, vous l'avez relevé, cet accord accorde la primature à l'opposition, et l'article 17 de cet accord stipule que, sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives nationales en vigueur, le Premier ministre est issu de l'opposition politique signataire du président d'accord. Et à votre avis, comment vous comprenez cette formulation?
Ben, évidemment, cette formulation, ça veut dire que ce sera probe, c'est un poste qui est taillé sur mesure. On sait qui a représenté cette opposition au niveau du dialogue convoqué par les chefs de l'État. Et donc, on a taillé, si vous voulez, un poste de Premier ministre pour lui permettre d'accepter de rentrer dans les jeux du dialogue, si vous voulez, et de signer cet accord. Autrement, il n'aurait pas fait, voyez-vous, parce que c'était l'enjeu d'obtenir un accord, d'obtenir un texte, donc il fallait faire un geste, si vous voulez, vers les patrons, si vous voulez, les représentants de cette opposition qui a participé au dialogue.
Oui, donc, j'ai posé la question, professeur.
Ça traduit un peu la nature de notre régime politique, voyez-vous, pour aller parler un peu plus globalement. Notre régime politique, c'est un régime néo-patrimonial, dont une des caractéristiques fondamentales, c'est le clientélisme politique. Donc, il y a des allégeances qui ne sont pas des allégeances sur base de fonctions des institutions, mais des allégeances sur base individuelle de profits que l'on peut tirer de ça. Donc, on achète l'adhésion des personnalités ou des individus pour obtenir l'obéissance. Voilà.
Professeur, j'ai posé cette question. Professeur, j'ai posé la question par rapport à ce qui commence, n'est-ce pas, cet énoncé, qui dit sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives nationales en vigueur, le Premier ministre est issu de l'opposition politique. Comment vous comprenez cette formulation?
Alors, cette formulation, ça veut dire quoi? C'est que la Constitution dit que, dans notre Constitution, il est dit que le président de la République nomme le Premier ministre dans la majorité, au sein de la majorité parlementaire. Et donc, c'est la majorité qui domine le Parlement, qui désigne un responsable, c'est le président qui va nommer les responsables du gouvernement par rapport à ça. Alors, donc, lorsqu'on dit qu'on nomme le Premier ministre sans préjudice de, si vous voulez, de dispositions constitutionnelle et autres, ça voudrait dire, si vous voulez, si on peut interpréter ça dans les, de manière extrême, on dirait que l'opposition qui accepte de prendre ce poste, il se met de facto dans la majorité parlementaire, qui est la majorité présidentielle.
Voilà, il y a même un cadre de la majorité présidentielle que nous avons reçu hier dans cette émission, qui a affirmé que l'opposition a proposé des rejoindre la majorité parlementaire pour participer à ces gouvernements, mais il précise que cela n'est pas dit dans cet accord. Professeur, vous êtes politologue, est-il possible qu'à l'issue des négociations politiques, les parties prenantes se conviennent de ne pas consigner dans l'accord politique certains points sur lesquels elles se sont mises d'accord en notre thème? Est-ce que cet accord peut avoir des non-dits?
Oui, évidemment, c'est le principe de tout accord politique. Tout accord politique ne dit pas tout. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut lire entre les lignes et les négociateurs, parce que ce qui se passe sur la place publique, ce qu'on discute dans les assemblées, tout ça, c'est bien souvent différent de ce qui se dit dans les couloirs, dans les antichambres, que les vrais décideurs décident, si vous voulez, à l'ombre. Et donc là, les vraies décisions sont là. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire là, on va essayer de mettre des choses qui ne fâchent pas. Mais les choses qui fâcheraient plus les gens, donc on va essayer de les éluder ou de laisser lire entre les lignes. C'est pour ça qu'il y a des gens pour interpréter les accords.
Merci Israël Moutala, analyste politique économique. Votre analyse au sujet de cet accord politique.
Cet accord, pour ma part, est un pas dans la bonne direction, mais je dirais tout de suite que je reste sur ma soif. Il n'est pas allé aussi loin qu'on l'espérait. Il n'a pas, mis le doigt sur le vrai problème, sur l'origine de la crise. Cet accord, pour moi, a plusieurs péchés. Moi, je rappelle d'abord que la crise actuelle, c'est une crise qui découle de la non-organisation de la présidentielle dans le délai constitutionnel. Voilà l'origine de la crise. Donc, c'est l'acceptation par la majorité présidentielle du principe de l'alternance politique en RDC. C'est la problématique de la possibilité du premier transfert pacifique, civilisé du pouvoir. Voilà l'origine de la crise. Est-ce que la majorité présidentielle est aujourd'hui à même de respecter, de promouvoir ces principes-là? Je suis en train de lire, avant de venir ici, le préambule. C'est vrai que dans l'accord, on a proclamé le fait que les signataires allaient renforcer l'état des droits, notamment une de ses valeurs qui est le principe de l'alternance politique. Mais quand vous lisez le préambule de cet accord, il n'est pas aussi puissant, aussi percutant que le préambule de la Constitution congolaise. La Constitution congolaise est une merveille en termes d'exaltation de l'état des droits, est une merveille en termes de glorification du principe de l'alternance. Et les mots de préambule de la Constitution sont plus beaux, sont plus forts, sont plus justes que ceux qui sont contenus ici dans le préambule de l'accord. C'est presque du bout de lèvres qu'on a noyé le principe de l'alternance avec d'autres valeurs d'un état de droit.
Vous pensez que cela a été fait à dessein?
Non, ça veut dire qu'on a pas, on a du mal à intérioriser le principe de l'alternance au pouvoir. Ça veut dire que c'est pas encore une valeur cardinale acceptée surtout par ceux qui détiennent le pouvoir. Et donc, on a encore cette conception personnelle, on a encore cette conception moyenâgeuse, on a encore cette conception patrimoniale du pouvoir. Le pouvoir est trop personnifié, alors pour certains dans la majorité, se projeter dans l'après-Kabila, c'est un crime de lèse-majesté. Il n'arrive pas à
Et l'opposition a procédé, c'est là?
Oui, l'opposition justement, parce que l'opposition qui est là-bas y est allée de bonne foi pour certains d'entre eux. Mais cette opposition, c'est une des faiblesses encore de cet accord, c'est que ce forum n'était pas assez représentatif. Et donc on ne peut pas imaginer que, en l'absence du rassemblement,
qui est la plus grande place stable de l'opposition, avec Tshisekedi Katumbi, la dynamique et d'autres consorts, les autres qui étaient là n'avaient pas assez de poids politique pour essayer d'avoir plus de concessions. Donc, le jeu politique est une question de rapport de force. Donc, le rapport de force n'était pas suffisamment en faveur de la France de l'opposition qui a participé à ce dialogue.
Pourquoi ?
Parce que cette opposition n'est pas aussi puissante, aussi représentative en termes de nombre, je ne parle pas qualitativement, en termes de nombre par rapport à celle qui est en dehors de ces assises. Et donc par rapport...
Je rappelle que le monde des prises de décision était les consensus.
Non, c'est des bobards. On ne peut pas... c'est une façon de... Comme le professeur avait dit tout à l'heure, dans toutes les dynamiques de congrès, de réunions, il y a des gens qui... Il y a des petits groupes qui prennent, qui orientent le débat, qui donnent le mot d'ordre que les autres suivent. Donc, aucun... Oh, ce n'était pas qu'un délégué avait une voix. Non, ça, il faut être stupide pour y penser. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens assez puissants qui ont déjà, qui avaient travaillé sur les résolutions, sur la direction et sur la finalité de ce dialogue, sur les concessions possibles à faire. Donc, tout avait été déjà fait bien avant. Et donc, on ne peut pas aller dans un tel forum en accordant à une personnalité de la société civile une voix. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y avait des gens qui étaient là que pour faire, pour le décor. Et donc,
pour la figuration.
Pour la figuration. Et donc, je m'aurais terminé par là. Ça veut dire que l'autre faiblesse, justement, c'est, dans cet accord, au lieu de se concentrer, comme j'ai dit, sur la question de la gouvernance, de l'alternance politique, on a mis un peu beaucoup de choses. Ça a été un accord fourre-tout. Vous allez trouver des recommandations comme payer la dette intérieure. Vous allez trouver des recommandations...
Améliorer les salaires
des fonctionnaires et tout ça. Bah, c'est des trucs loufoques. C'est une mission qui appartient. Donc, ce n'est pas dans un tel forum. Donc, c'est pareil aux recommandations des concertations nationales où vous avez eu des gens qui vous ont dit on va typiser nos ressources naturelles pour les vendre. Bref, c'est stupide. Donc, ça veut dire qu'on était dans un forum où il y a un problème politique clair qui est la non-organisation de la présidentielle dans le délai constitutionnel. Il fallait s'atteler à ça. Mais, comme je dis, l'autre faiblesse, c'est la garantie sur la bonne application, parce que je dis que la garantie sur la bonne application de cet accord. Là aussi, il y a une faiblesse parce que la bonne application de cet accord dépend essentiellement du président de la République. Et donc, là aussi, c'est une faiblesse, parce que je ne crois pas au mécanisme de suivi. Je ne vois pas son poids politique. Comment est-ce que lui, il peut amener le chef de l'État à mettre en œuvre cet accord si jamais il était de mauvaise foi ou si jamais il n'en voulait plus. Et donc, il y a autant de faiblesses qui me font croire que c'est vrai qu'on est allé dans la bonne direction, parce qu'il y a quand même une date de la présidentielle, il y a quand même l'affirmation du respect de la Constitution, il y a quand même le fait que même la possibilité d'un référendum a été plus ou moins évacuée. Merci. Avec le respect de la Constitution. Donc, il y a des aspects positifs.
Merci, Joseph Kongolo, analyste politique. Qu'est-ce qui vous attire, vous, lorsque vous lisez cet accord?
Bien, merci beaucoup.
L'élément qui vous attire.
Merci beaucoup. Je salue Israël Moutanda et le professeur. Je voudrais dire que, moyennant évidemment tous les points positifs que Israël et peut-être le professeur ont donnés, pour ne pas y revenir, c'est vrai, il y a une avancée, n'est-ce pas, dans la recherche de la solution à la situation qui prévoit la République démocratique du Congo. Mais je voudrais dire tout de suite ceci, que cet accord, c'est une prescription à une pathologie donnée. Est-ce que le diagnostic a été correct? Est-ce qu'on a posé correctement le diagnostic pour arriver à cette prescription? Parce que l'efficacité d'une prescription dépend de l'analyse, du diagnostic qui doit être fait sur le malade, sur la pathologie en question. Ah, c'est là qu'il se trouve la question. Or, ma lecture dit ceci, que l'accord qui a été trouvé, c'est tout simplement un moment de rupture de la routine constitutionnelle. C'est-à-dire que, quelque part, cet accord est venu briser la continuité de la Constitution. Parce que vous avez posé la question tout à l'heure au professeur, je vous suivais, comment peut-on dire que la primature revient à l'opposition pendant que, dans la Constitution, c'est dans la majorité présidentielle ou la majorité parlementaire qui se confond aujourd'hui à la majorité présidentielle. Vous voyez, donc, ce sont deux choses qui sont venues pour suspendre la régularité de la Constitution dans sa profondeur. Voilà les instabilités auxquelles ouvre, n'est-ce pas, cet accord. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, oui, le deuxièmement, c'est que voilà le résultat d'un rapport de force, comme Israël vient de le dire tout à l'heure. C'est un rapport de force entre les deux blocs en présence. Or, il est clair qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle était en position objective de puissance face à l'opposition qui n'a pas été suffisamment représentée en termes de quantité. Voyez-vous ? Et ça, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'on ne s'en prend pas, l'opposition qui a été... Mais on s'en prend aujourd'hui à cette pesanteur assez solide de la majorité sur l'opposition qui était représentée. Alors, voyez-vous, cet accord nous introduit dans une situation de crise, dans un gouvernement de crise. D'abord, lui-même, ce gouvernement qui va venir, il est issu d'une crise. Il y a un gouvernement palliatif qui vient tout simplement pour nouer les deux bouts de suspension de la Constitution et du commencement de la Constitution. Or, cette période, c'est une période éminemment instable, éminemment fragile, qui peut ouvrir, un, à toutes les nouvelles contingences politiques que le président de la République, qui n'a aucune contrainte, il n'y a aucune contrainte dans cet accord, au président de la République, qui n'a aucun garde-fou, n'est-ce pas, dans cette Constitution, de créer des nouvelles contingences politiques qui peuvent sursoir la Constitution et passer, à l'organisation du référendum, qu'on a vite sorti, n'est-ce pas, du draft qui était donné. Vous avez constaté que cet élément est sorti du draft. Le draft a été clair là-dessus, qu'on ne peut pas revenir, n'est-ce pas, qu'on peut organiser un référendum. Et que le président de la République ne peut plus postuler pour un troisième mandat. Et tous ces éléments ont été élargués facilement pour laisser un accord éminemment ouvert à l'ensemble des dinosaures qui peuvent, n'est-ce pas, produire des nouvelles contingences politiques et qui peuvent sursoir aussi facilement, n'est-ce pas, la Constitution et ouvrir, n'est-ce pas, la porte à une quatrième République.
Et l'accord qui est venu briser la continuité de la Constitution, c'est selon vous, Joseph Kongolo. Et comment vous réagissez à cette opinion? Il y a certains experts qui sont même parvenus, n'est-ce pas, à affirmer que pour éviter de violer la Constitution lors de l'application de cet accord, ils ont évoqué deux éventualités. Soit on révise l'article 78 de la Constitution afin de l'adapter à la recommandation qui veut que la primature puisse revenir à l'opposition, soit il sera mis en place notre cadre juridique devant régir la période de transition d'une année et demie.
D'abord, cet accord ouvre les portes à toutes les possibilités. J'ai dit qu'on peut créer de nouvelles contingences. Elle est déjà là, contenue dans l'accord, n'est-ce pas, qui peut sursoir la Constitution et créer un nouvel cadre, un nouveau cadre, n'est-ce pas, juridique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on n'a pas forcément besoin de modifier la Constitution aujourd'hui, parce que c'est très sensible, la modification de la Constitution aujourd'hui. Mais je crois plutôt que le professeur l'a dit tout à l'heure, qu'au lieu de revenir sur l'opposition, le concept opposition dans l'accord, carrément, il faut basculer, n'est-ce pas, dans une nouvelle majorité parlementaire. Et arrêter de parler de l'opposition et parler, n'est-ce pas, de la nouvelle majorité parlementaire. Je crois qu'on va on va corriger, n'est-ce pas, c'est que l'analyste de tout à l'heure vient de dire. Je crois qu'il faut tout simplement élaguer le concept d'opposition dans l'accord et laisser la nouvelle majorité parlementaire. Évidemment, qui sera la nouvelle majorité aussi présidentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller outre, en quelque sorte. Donc, moi je crois qu'aujourd'hui, il est difficile, et je comprends d'ailleurs pourquoi il y a un peu une sorte de tiraillement entre la communauté internationale aujourd'hui et l'Union africaine, qui, l'autre, apparemment, semble soutenir, l'Union européenne semble soutenir, n'est-ce pas, l'accord qui a été signé.
L'Union africaine,
pendant que la communauté internationale semble, n'est-ce pas, vouloir modifier la constitution à travers, n'est-ce pas, un nouveau dialogue. L'accord à travers, n'est-ce pas, un nouveau dialogue. C'est tout simplement pour éviter cette surenchère qui risque, n'est-ce pas, d'ouvrir encore une nouvelle fois des portes, n'est-ce pas, à une situation de crise violente.
Vous parlez d'une nouvelle majorité parlementaire. Il y a aussi une démarche, n'est-ce pas, pour arriver à constater qu'il y a une nouvelle majorité parlementaire. Les chefs d'État nomment un informateur qui identifie, n'est-ce pas, cette nouvelle majorité parlementaire. Ça ne se décrète pas. Cela devait être consigné, n'est-ce pas, dans cet accord, de façon formelle.
Vous êtes dans la Constitution. Je vous dis que cet accord est venu suspendre, n'est-ce pas, la routine constitutionnelle. C'est-à-dire que ce sont des éléments de la routine constitutionnelle. N'est-ce pas? Mais ici, cet accord est venu suspendre, en quelque sorte. Ça, il faut lire dans la profondeur. Vous allez constater qu'on est venu suspendre cette routine constitutionnelle. Nous sommes dans une situation. D'ailleurs, l'accord parle d'une période intermédiaire. Une période intermédiaire signifie entre la suspension de la légalité et ou de la légitimité. Tout dépend de la lecture que chacun peut faire. La suspension de la légalité, la suspension de la légitimité vers une autre nouvelle légalité ou une nouvelle légitimité. Voyez-vous? Et cette situation n'est pas codifiée par la Constitution. Je l'ai dit en profondeur, ce n'est pas la Constitution aujourd'hui. Elle est suspendue. Et vous comprenez pourquoi? Il y a des concepts tels que le régime spécial, la période intérimaire. Ce sont des concepts qui ne veulent pas clairement parler de la transition.
Merci, professeur Maïndo. Il y a une question qui vous est, une réflexion qui vient de Dungu pour vous.
Crispin Aribou, territoire de Dungu, province de Haut-Uele. J'ai l'impression que cet accord ne reflète pas l'aspiration populaire des Congolais qui souhaiteraient que le chef de l'État termine tranquillement son mandat en 2016 comme prévu par la Constitution, et qu'il soit capable de se représenter, s'il le veut bien, que lors d'un autre cycle électoral en 2021. Personne ne lui voudra. Ensuite, cette primature concédée par la majorité à l'opposition modérée ressemble un peu à un cadeau empoisonné dont l'objectif consisterait, pour les cas Kabila, de jouer le Ponce Pilate en cas d'un autre échec qui serait déjà entrevu pour la réussite hypothétique du dit accord, en vue de la tenue effective des élections présidentielles couplées aux législatives nationales et provinciales en avril 2018.
Oui, professeur Maïndo.
Oui, merci bien. Je remercie notre auditeur avec ses réflexions. Bon, alors, si je peux faire deux ou trois petits commentaires par rapport à sa réflexion. Premièrement, en ce qui concerne le statut du chef de l'État, évidemment, moi, je suis de ceux qui pensent que, au nom du principe de la continuité de l'État, on ne peut pas, si vous voulez, amener les chefs de l'État à partir comme ça. Il faut qu'il y ait un nouveau chef qui vienne lui succéder. Il faut éviter le vide. Et deuxièmement, la Constitution ne fait pas obligation au chef de l'État d'affirmer clairement, avant la fin de son mandat, qu'il ne sera pas candidat. En principe, ça va de soi. Comme il a un deuxième mandat qui est le dernier, donc il n'a pas besoin de dire qu'il ne se représentera pas. Donc il peut rester muet jusqu'à l'échéance prévue, qui est le 19 décembre. Alors en ce moment-là, il peut faire un discours ou quoi, si jamais il n'y a pas d'élection. Mais avant ça, il n'est pas tenu, il n'a pas une obligation. Alors, évidemment, quand on regarde cet accord, il y a une bonne partie de l'opposition, y compris d'ailleurs l'Église catholique, et un certain nombre de partenaires de la RDC qui ont clairement exprimé leur vœu de voir le chef de l'État se prononcer publiquement pour dire qu'il renonce à se représenter conformément à la Constitution. Et c'est ce qui est aussi à l'origine de la réforme aujourd'hui. Voyez-vous. Mais comme il n'est pas tenu par la Constitution de le dire, on attend. Il faut voir ce qui va se passer. On espère que comme il a appelé les gens à dire, voilà, à sa majorité à se préparer aux élections dernièrement, peut-être qu'ils peuvent surprendre les gens, ce n'est pas impossible qu'ils disent, voilà, on avait déjà eu la possibilité de faire des élections avec les fichiers de 2011, alors allons-y, puisque je veux partir immédiatement, sans attendre, et ils pourraient prendre tout le monde, si vous voulez, à court. Et là, je vous garantis, même l'opposition sera la première à dire, non, on n'y va pas maintenant, on n'est pas encore prêt. Donc il y a toujours des possibilités. Alors pour revenir à l'autre aspect, évidemment quand on regarde les postes de primature qui est donné à l'opposition pour organiser les élections dans les temps qui viennent là, moi je ne dirais pas que c'est un piège qui est tendu à l'opposition. Par contre, je pense que c'est plutôt un acte d'adhésion de cette frange de l'opposition à cette majorité pour pouvoir gérer. Parce que eux-mêmes, ils affirment dans les préambules qu'ils respectent les constitutions, toutes les lois, etc., etc. Et ils précisent bien sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur. Ça signifie qu'à partir du moment où vous acceptez d'être Premier ministre dans le contexte que nous avons là, vous, si vous ne voulez pas violer les dispositions constitutionnelles et législatives, c'est ce que dit l'accord. Vous intégrez la majorité en ce moment-là. Et donc vous allez avoir besoin du soutien de la majorité parlementaire qu'il y a, qui est là pour votre action, tout ça, etc. Et ça, c'est ce qui ressort. De ce fait-là, l'action qu'ils vont mener, ça sera l'action de la continuité de la législature actuelle, qui sera donc une espèce de prolongation.
Et donc, ça veut dire que...
On n'ira pas très loin.
Ça veut dire qu'ils vont assumer.
Puisque...
Oui, ça veut dire que... Cela veut dire que ces gouvernements vont assumer les bilans, n'est-ce pas, des 5 ans du deuxième mandat du chef de l'État Kabila.
Bah, oui, c'est mon point de vue. Je pense comme ce sera la continuité de ce mandat, ils vont donc assumer aussi les bilans de ce gouvernement, puisqu'ils vont continuer jusqu'à la fin avec le même président, y compris avec les autres institutions, notamment le Parlement, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, puisqu'ils ont dit qu'on ne peut pas toucher à tout ça. Donc on voit là, si vous voulez, là aussi, ça donne l'indication d'où, si vous voulez, de la direction que nous avons prise avec cet accord-là.
Voilà.
Et en fait, pour résumer, on a obtenu par cet accord une espèce de légitimation de ce que nous avons toujours entendu, de ce qui a toujours été dit, c'est le glissement. On est en plein avec cet accord.
Israël Mtana, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Baume de Bukavu, au sud Kivu. Cet accord n'est qu'un compromis entre la majorité et l'opposition ayant participé au dialogue pour se partager seulement le pouvoir. Au fond, il trahit l'une des attentes légitimes du peuple congolais, à savoir la tenue des élections dans les délais constitutionnels pour une véritable alternance politique. Il reste loin de réconcilier les acteurs sociopolitiques et ouvre pour se faire la porte à la crise politique en RDC. Je pense qu'un vrai dialogue politique inclusif pour un vrai accord politique s'impose toujours.
Oui, Isabelle Mtala.
Je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'a dit notre auditeur. À ceci près que j'accorde quand même le bénéfice de la bonne foi à certains acteurs politiques. Je pense que certains y étaient partis de bonne foi. Mais tu peux y aller de bonne foi, mais tout est question de rapport de force. Je ne reviens pas.
Et lorsqu'on y va jusqu'au bout, c'est qu'on a cautionné, n'est-ce pas, ce qui a été fait?
Oui, on a cautionné. Mais qu'est-ce que... J'aimerais mettre aussi l'accent un peu, parce que j'ai dit que l'accord n'était pas suffisant, parce que justement, la frange la plus importante de l'opposition, incarnée par Tshisekedi, Katumbi et les autres, n'y était pas. Et donc là, c'est une faiblesse importante. Je fais observer aussi qu'une des faiblesses de cet accord, comme on l'a dit, c'est l'inclusivité. Il a à peine le soutien d'une partie de la communauté internationale, et c'est plutôt les Africains qui le soutiennent de manière franche. Mais les Africains, les chefs d'État africains n'ont pas bonne presse. L'Union africaine est réputée comme étant un syndicat des dictateurs. L'Union africaine n'a pas un avenir parce que le socle de valeurs démocratiques n'est pas partagé par tous. Donc comment est-ce qu'on peut bâtir une unité, une prospérité collective parce qu'on n'a pas les mêmes idéaux? Donc c'est une démocratie galvaudée, édulcorée, à la tête du client. Bref, l'Union africaine n'a pas beaucoup de crédibilité aux yeux des Africains. Et donc, une autre faiblesse, comme je le dis, les mesures de décrispation n'ont pas été suffisantes. Et l'accord le reconnaît parce que il y a une recommandation de l'accord qui demande à ce qu'on puisse continuer avec des mesures de décrispation. Donc on estime que on n'en a pas fait suffisamment. Et Moi, je dis, il y a plusieurs faiblesses. Et pourquoi tout ça? Nous sommes dans un régime où le président de la République est la clé de voûte de nos institutions, de la démocratie. Et surtout quand il a la majorité au Parlement, c'est vraiment lui le vrai patron de la République. Et donc, si on avait un président qui n'avait pas la majorité parlementaire, là oui, on aurait peut-être un système de contrepoids. Mais ici, quand le président de la République est à la fois, a aussi la majorité présidentielle, on est presque dans un régime présidentiel, parce qu'il a tous les leviers de pouvoir. Tous les leviers de pouvoir. Alors, ici, c'est ça le problème. Donc, on a le chef de l'État qui a enfin mandat. Et donc, l'élection devait avoir lieu cette année, elle n'a pas eu lieu. Donc, nous sommes dans un glissement de 16 mois. La présidentielle est censée avoir lieu le 29 avril 2018. Passation de pouvoir 10 jours après. Donc, la passation de pouvoir civilisée à peu près autour du 10 mai 2018. Voilà la clé de cet accord. Mais le problème, est-ce que cet accord, a-t-on la garantie que le 29 avril, ça veut dire dans 16 mois à peu près, cette élection se tiendra? A-t-on la garantie que les résultats de cette élection seront transparents? A-t-on la garantie que les résultats de cette élection hypothétique le 29 avril 2018 sera accepté par le chef de l'État actuel et qu'il y aura passage civilisé du pouvoir? C'est ça l'enjeu, l'alternance, le 10 mai à peu près 2018. C'est ça l'enjeu. Et donc, est-ce que le chef de l'État actuel peut-il donner des garanties suffisantes? Parce que ces garanties-là, comme l'a fait remarquer Joseph Kongolo, il n'y en a pas dans la Constitution. Peut-il, sur la foi de quel honneur? Parce que la Constitution qu'il avait promulguée et promis de défendre solennellement devant la nation et devant Dieu, n'a pas été respectée. Est-ce que maintenant cet accord, qui n'a pas la même portée juridique que la Constitution, va-t-il le respecter? Donc, il y a cette cassure de confiance entre le chef de l'État et une partie des Congolais qui fait que beaucoup de gens n'y croient pas. Et aujourd'hui, les concessions qu'il a pu donner, qu'il a pu faire, ou sa majorité a pu faire, c'est parce qu'il y a un rapport de force interne et externe qui l'y contraint. Donc, mais or, on aurait voulu avoir des dirigeants politiques, de vrais hommes d'État, qui peuvent juste appliquer la Constitution sans contrainte, sans pression.
Monsieur Kongolo, cette réflexion vient de Goma pour vous.
Parce que Kachibwami, à partir de Goma, la raison du plus fort est toujours la meilleure, dit-on. Cet accord politique, qui par ailleurs donne lieu à un gouvernement d'union nationale, est ipso facto avantageux à la famille politique de l'actuel président de la République, car bien qu'il n'ait pas se représenter aux élections, la majorité présidentielle mettra toutes les batteries en marche, soit pour remporter les élections par une autre personne de la majorité, ou soit Kabila conserve le pouvoir, sachant que la politique est l'art de conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. Que l'opposition dite radicale mette un peu d'eau dans leur vin en évitant la politique des chefs d'État.
Oui, Joseph Kongolo.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Passy. Je voudrais dire que tout ce que vous avez dit dans la première partie de votre réflexion, je crois que c'est la stratégie de toute plateforme politique. C'est-à-dire que si le président de la République lui-même n'arrive pas à jouer correctement le jeu pour surseoir la Constitution, se reposer comme candidat, n'est-ce pas, à la prochaine échéance, aux prochaines échéances, eh ben, il va choisir un dauphin qui va aussi se battre avec les moyens, n'est-ce pas, qu'ils auront récoltés pour pouvoir gagner les élections, n'est-ce pas, aux élections prochaines. C'est tout à fait logique et normal, et ça, je vous en concède. Mais quand vous dites, vous demandez à l'opposition, au rassemblement, de mettre l'eau dans le vin, ça veut dire quoi? Parce que c'est ce rassemblement qui a demandé le dialogue, qui a été pour le dialogue, mais pour le besoin de la cause, ils ont posé des préalables. Ils ont posé tout simplement des préalables avant d'aller au dialogue. Donc, ce qui est vrai, c'est que même le rassemblement est pro-dialogue, en réalité, et même l'opposition aussi est allée au dialogue, sauf que eux ont posé des préalables pour aller au dialogue. Donc, disons que, voyons voir comment le jeu va se passer, parce que les uns et les autres se battent sur le terrain de la stratégie pour voir si on peut faire un deuxième dialogue ou pas, et si pas, alors il y aura toujours, n'est-ce pas, d'autres mécanismes de conciliation entre les deux forces politiques. Je crois que ça, c'est la vertu aussi en politique. Mais en ce moment, je voudrais revenir un peu sur quelque chose, c'est qu'Israël venait dit tout à l'heure que le président, nous sommes dans un régime présidentiel, c'est vrai, un régime semi-présidentiel. Quand le président de la République a la majorité, il fonctionne comme un régime présidentiel, c'est vrai, il a tout. Mais je voudrais dire une chose qui est très importante. c'est que toute institution peut toujours se transformer en un mécanisme sans âme s'il n'y a pas une vigilance constante des forces politiques ou encore des forces sociales. Quel est le rôle de la société civile en République démocratique du Congo? C'est d'empêcher ça. C'est d'empêcher ça. Sa force, ce n'est pas toujours de participer à des dialogues, n'est-ce pas, pour rentrer dans le gouvernement. Je crois que c'est de protéger les institutions par les contrôles citoyens, n'est-ce pas, de l'exercice des responsabilités politiques. Aujourd'hui,
il faut dire que ces politiques... Et donc, la société n'a pas joué son rôle.
Elle n'a pas joué son rôle, c'est clair. Tout le monde l'a crié, même le disent.
Et même, plutôt, Joseph Kongolo, le concept utilisé dans cet accord, c'est recommandation, il n'y a pas des résolutions. Pourquoi, à votre avis, on a évité le terme résolution?
Bon, comme je disais tout à l'heure, Israël l'a dit qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la crise en présence et qui ont été mises dans l'accord. Or, nous savons qu'un gouvernement en transition a une mission précise et limitée dans le temps. Ok ? Celui-ci, je crois que c'est pour amener, n'est-ce pas, la population aux élections dans une année. Et c'est pas dans une année qu'on va améliorer le vécu du citoyen, c'est pas dans une année qu'on va faire ceci, qu'on va transformer l'économie, qu'on va diversifier l'économie et tout ça. Non, je crois qu'on voudrait juste habiller l'accord, mais en réalité, il n'y a pas de recommandation à faire. Qui fait la recommandation? Qui a le pouvoir contraignant pour faire des recommandations? Moi, je crois qu'il fallait parler des résolutions plutôt que des recommandations. Quand on recommande, c'est qu'il y a un pouvoir supérieur, n'est-ce pas? Qu'il y a une hiérarchie des valeurs. Il y a un pouvoir supérieur qui recommande, n'est-ce pas, à une structure de faire ceci parce qu'il y a un contrôle contraignant. Donc, je crois qu'il aurait bien fallu parler de résolution.
Professeur Israël, plutôt Alphonse Maïndo, l'article 24 de cet accord stipule que le présent accord est ouvert à la signature d'autres partis politiques et de groupements politiques ainsi qu'aux autres organisations de la société civile qui s'engagent à respecter toutes ces dispositions. Avec une telle recommandation, peut-on espérer, comme le souhaite le rassemblement et notre dialogue, surtout que le facilitateur Ndem Kodjo a dit qu'il n'y aura pas un autre dialogue?
Bon, vraiment, en politique, on dit jamais, jamais. On dit jamais, jamais. Là, on est dans les tractations en ce moment entre les différentes forces en présence, entre les partenaires de la RDC, les autorités congolaises, pour essayer d'arriver à trouver un nouvel espace de négociation, un peu là comme vous le voulez, dialogue ou médiation, ou espace de négociation ou forum, pour arriver à assurer, si vous voulez, l'inclusivité de tout le monde. Et ce n'est pas cet accord 24 qui va dire ça. On ne peut pas parler de l'adhésion, parce que l'article 24 dit plutôt que les gens vont adhérer à cet accord-ci. Or, on sait très bien qu'il y a une bonne frange de l'opposition, y compris l'Église catholique, qui rejette cet accord, qui ont fait les conclaves avec ses propres résolutions, ses propres conclusions. Donc, qui sont différentes de celles-ci, ils vont pas adhérer à cet accord. Ce qui est fort probable, c'est qu'on arrive à négocier un nouvel accord. Et pour moi, je considère que cet accord-ci, tout comme les résolutions du conclave de l'opposition, vont se considérer comme étant des documents de travail.
Merci.
Qui vont permettre de trouver un nouvel accord inclusif avec toutes les parties prenantes, les principales parties prenantes de la crise congolaise.
Merci, professeur Maïndo. Israël Moutala, ça sert à votre conclusion. Il y a un expert qui s'est demandé si la majorité présidentielle va permettre à un gouvernement dirigé par un opposant de pouvoir organiser des élections pendant qu'elle n'a pas pu les faire en 5 ans.
Justement, c'est ça le paradoxe. Mais avant que je ne réponde à cette question, permettez-moi d'insister sur un point important dont a parlé Joseph Kongolo. C'est le rôle de la société civile, justement. La société civile, c'est pendant ce moment pareil que nous avons besoin d'entendre les professeurs d'université, nous avons besoin d'entendre les enseignants, les infirmiers, les médecins, les avocats, les taximens, les pharmaciens, les paysans. Voilà, tout ça, la société civile, elle doit se prononcer. Mais par rapport à la garantie, comme je l'ai dit, c'est une hypothèque. Il faudra absolument qu'il y ait l'effort social, qu'on crée ce qu'on appelle une masse critique pour justement contraindre les politiques à respecter la Constitution.
Joseph Kongolo, c'est votre conclusion. Comment vous entrevoyez la suite?
D'abord, si cet accord résiste à tous ces assauts, c'est que sa force proviendra de la capacité des porteurs de cet accord, ceux qui vont le gérer, ceux qui vont l'appliquer, à le faire adhérer, n'est-ce pas, à l'ensemble de la population. Je crois que c'est de cette manière qu'on pourra un tout petit peu atténuer un peu la virulence de la crise et peut-être aussi échapper à toutes ces violences qu'on présage.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique. Merci à Alain Irung et Béry Franklin Luchaka sous la supervision de Julien Yamoyi. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suivi de programme sur Radio Capi.